EMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Cette semaine, nous allons parler de l'amour, plus précisément marche dans l'amour. Et sûrement que ça vous dit quelque chose, un livre, un chant, est-ce que ça vous parle? Et cette semaine, nous avons la grâce exceptionnelle d'avoir avec nous l'auteur de ce livre, Marche dans l'amour, Walk in Love, qui n'est nul autre que Jérémy Sourdril. Bonjour.
Bonjour Annabelle Sourdril, bonjour Nadine Kabouya, je suis très heureux d'être là avec vous.
Moi, je fais comme Nadine, je suis hyper, je deviens professionnelle comme Nadine. Je fais comme si on n'avait pas vraiment de lien. Comme quand tu présentes Homer.
Pasteur Homer, vous
pouvez dire. Oui, Pasteur Homer. Donc, du coup, moi aussi, je prends exemple sur toi,
Nadine.
Non, ok. Donc, Jérémy, et oui, et mon mari, comme vous le savez, bah, plutôt Jérémy et le mari d'Annabelle, bienvenue dans mon émission. Oui, j'ai dit la même chose deux fois.
Hein. Oui, ça me fait plaisir, Annabelle, d'être là pour pouvoir utiliser ces nouveaux fauteuils.
Oui, je pense que tout le monde avait envie de savoir qu'est-ce que tu penses des nouveaux fauteuils de Parole de Femme.
Alors, ce n'est pas les fauteuils de pré-inspirés, mais quand même, on s'y approche.
C'est mieux que les anciens fauteuils.
C'est vraiment mieux que les anciens fauteuils.
Ok.
Bravo d'ailleurs, félicitations d'avoir tenu aussi longtemps dans des fauteuils aussi minables.
Donc tu vas pas nous... C'est beau, on fait juste le point sur les fauteuils pour éviter.
C'est terminé,
que...
j'en reparlerai pas, je vais essayer en tout cas.
La semaine, c'est bon, t'es confortable.
Ouais, je vais essayer de pas.
T'es à l'aise.
Ça va aller.
Ok, excellent. Donc, Jérémy est bien assis. Je pense que vous êtes tous contents de pouvoir le savoir. Vous êtes rassurés, votre cœur est rassuré, parce qu'on n'aime pas quand il n'est pas confortable, quand même. Et en plus que ça le rend grognon. Mais... Donc, cette semaine, nous allons parler de marcher dans l'amour. Comment marcher dans l'amour, particulièrement dans nos églises. Et parce que, quelquefois, on peut vivre une double déception, une déception encore plus vive quand on vit des offenses ou on vit des tensions relationnelles avec des frères et sœurs dans l'église ou avec un pasteur, un leader. On se dit, ça se passe dans le monde chrétien et puis ça peut vraiment nous affecter au point même quelquefois de quitter l'église, de quitter des groupes ou même de se dire, moi être chrétien, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Mais cette semaine, nous allons voir que le Seigneur nous appelle à pardonner et si vous avez besoin de pardonner cette semaine, sachez que je crois que vous allez le faire et puis aussi à guérir si on a été offensé, à pouvoir marcher dans l'amour, cette voie que le Seigneur a dit, cette voie royale de l'amour. Alors, pour te redonner la parole, comment tu as écrit, pas un livre, mais tu en as écrit trois finalement, sur Walk in Love. Tu nous diras peut-être pourquoi tu l'as écrit en anglais, enfin pas le livre, hein, mais pourquoi le titre est en anglais. Et il y a trois tomes en fait, et l'année dernière, tu as sorti les deux derniers tomes. En quoi est-ce qu'ils étaient différents ceux-là ?
Alors le premier livre, ça parlait des difficultés relationnelles entre chrétiens par rapport à qu'est-ce qu'on peut vivre en tant que chrétien, les conflits, voilà, tout ce qui peut se passer au sein de l'Église. Et aussi particulièrement la difficulté qu'on peut avoir en tant que chrétien par rapport à des choses qu'on voit chez les pasteurs et qui peuvent nous déranger. Et parfois aussi le désir de vouloir une promotion, avoir des positions dans l'Église et ce que ça peut générer par rapport aux autres qui sont dans l'Église avec moi. Donc c'est un peu le premier livre. Et dans le deuxième et le troisième livre, je parle plus des attitudes des pasteurs, des fautes qu'on peut retrouver chez les pasteurs, parce qu'on en trouve effectivement. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à ce qu'ils trouvent en eux aussi, parce que ce sont des chrétiens, et comment ils doivent gérer ça par rapport à Dieu, leur attitude aussi par rapport aux brebis. Et dans la troisième, je parle de 25 types de personnes qu'on trouve au sein d'une église ou d'une division en partageant l'histoire de David, qui lorsqu'il va devoir quitter Jérusalem parce qu'il a été trahi par son fils Absalom, il va rencontrer 25 personnes qui sont en fait vraiment 25 types de personnes qu'on retrouve dans l'église. Donc jusqu'à ce qu'il revienne à Jérusalem, il va rencontrer ces personnes et c'est hyper intéressant de voir, c'est comme 25 profils de personnes qu'on trouve dans l'église. Et donc c'est un peu le thème des livres.
En tout cas, Nadine et moi, on est contents parce qu'on a coécrit avec toi ces livres.
Ah, je n'étais pas au courant.
Non, tu n'es pas d'accord, Nadine ne veut pas rentrer avec moi là-dedans. Donc, pour commencer, on va parler des offenses. Et c'est vrai que ça peut être surprenant quand on donne sa vie au Seigneur de se dire « je vais aller dans une église et puis j'ai été touchée par l'amour de Dieu. » Et tous ces gens autour de moi aussi ont été touchés dans l'amour de Dieu. Et du coup, ça peut être surprenant de voir qu'il y a aussi des offenses dans l'église. Et pourquoi y a-t-il des offenses dans l'église, Jérémy Sourdril, alors que il y a des gens qui sont nés de nouveau et puis qu'on aime Dieu et Dieu nous aime? Comment ça se fait?
Eh bien, parce que quand on sort de l'Égypte, la mentalité n'est pas forcément transformée et donc il y a des choses qui doivent encore changer en nous. Jésus a dit, il est inévitable qu'il y ait des occasions de chute ou de dispute. Donc déjà, le fait est posé. On ne trouvera pas d'église parfaite. Et dans toute relation, il y aura toujours, à un moment ou à un autre, des difficultés qu'on va devoir gérer. D'où l'importance d'avoir une très bonne communication. Parce que là où il n'y a pas de communication, c'est la porte ouverte à ce que les choses s'aggravent. Et, ou alors qu'on les garde dans le cœur. Et au bout d'un moment, il suffit d'un déclic et boum, ça éclate. Donc la communication est vraiment importante. Donc, il dit, il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute. On le retrouve aussi dans l'Église et dans les Églises. Et Jésus dit par contre, en disant cette vérité, « Malheur à celui par qui ces choses arrivent. » Donc, il pose un fait, il y aura des occasions de chute, il y aura des occasions de dispute, il y aura des difficultés. Maintenant, ne soyez pas cette personne qui va créer des occasions de chute pour les autres. Et il dit, prenez donc garde à vous-même, c'est-à-dire vous faites attention. Et tout de suite, il donne la solution, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler cette semaine. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. Et s'il change d'attitude, pardonne-lui. On reviendra sur ça. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. Et ce à quoi les disciples ont répondu, Seigneur, augmente notre foi. Alors on a souvent pris ce passage, augmente notre foi, pour parler de la foi. Mais en réalité, ça parle du pardon et de la difficulté qu'on peut avoir à pardonner ceux qui nous ont offensés. Donc, il y aurait plein de raisons pour lesquelles on trouve des sujets, des conflits dans l'Église. Bon, j'ai parlé du désir de promotion, des déceptions qu'on peut avoir et qu'on peut voir chez le leader, chez des responsables spirituels, aussi chez d'autres frères et sœurs, que finalement, on réalise qu'ils ne sont pas parfaits, comme tu l'as dit. On arrive dans l'église, on est sauvé, waouh, gloire à Dieu, on découvre un amour extraordinaire. Oh, dans ce lieu, il y a tellement d'amour, je n'ai jamais vu ça dans le monde. La personne s'ouvre au Seigneur et finalement, il réalise que dans et parmi le peuple de Dieu, il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'être régénérées dans leurs pensées et de mourir à eux-mêmes. Parce que quand on est mort à nous-mêmes, vous pouvez frapper un cadavre, jamais il ne vous répondra. Par contre, il ne faut pas seulement rester mort. Après, il faut manifester la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, simplement, c'est parce qu'on est une âme. Et cette âme-là, elle peut être blessée, elle peut être déçue, elle peut être attristée, on peut être de mauvaise humeur. Bref, il y a tout un tas de possibilités pour lesquelles il peut y avoir des conflits dans l'Église.
Moi, j'avais vu une citation une fois sur les réseaux qui disait que l'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les malades. Et je crois que ça, ça a l'air tout simple comme ça, comme citation, mais c'est un rappel pour nous et c'est peut-être aussi une nouvelle pour des nouveaux chrétiens qui ne réalisent pas, ou même nous-mêmes aussi, à se le rappeler, que comme dans un hôpital, y a différents étages et il y a ceux qui viennent pour un accouchement, d'autres qui viennent pour une blessure, d'autres qui viennent pour une opération, etc. Et donc, on s'attend à trouver des malades quand on va dans un hôpital. Comme même tu vas à l'étage de la maternité, mais tu sais qu'un étage plus haut, un étage plus bas, il y aura des malades. Et je crois que quand on va à l'église, on doit aussi savoir que c'est la même chose en fait. Il y a des gens comme Jérémy l'a dit, qui sont peut-être nouvellement au Seigneur, qui savent, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. C'est même pas une question de temps, mais c'est une question de transformation. Parce qu'il y a des chrétiens de longue date, et des fois c'est pour ça qu'il y a des offenses, parce qu'on est peut-être offensé par l'attitude d'un chrétien de longue date à qui on a fait confiance, un diacre ou une personne en autorité, et on se dit, mon Dieu, comment elle peut réagir comme ça? Donc je crois que c'est important de nous-mêmes être indulgents envers nous et être indulgents envers les autres, en réalisant que chacun est à une étape différente. On vient tous servir Dieu, chercher Dieu, mais chacun est à une étape différente. Et je crois que quand on réalise ça, on sera moins dur. Parce que j'ai vu des gens s'offenser, on parle pourquoi il y a des offenses dans l'Église, s'offenser pour en rien, s'offenser parce qu'on ne m'a pas appelé, s'offenser parce que, voilà, j'étais partie, puis personne n'est venu. Tu sais, c'est quelque chose, oui, c'est peut-être, oui, on aurait dû t'appeler, mais est-ce que c'est vraiment une occasion pour toi de quitter? Mais c'est parce qu'en fait, j'avais tellement d'attentes que je me dis, peut-être dans le monde, à mon travail, on ne m'aurait pas appelé, ça ne me dérange pas. Mais le fait que mes frères et sœurs en Christ ne l'ont pas fait, c'est comme si c'est encore plus grave. Et donc, je crois que c'est dans les deux sens qu'il faut réaliser ça pour comme ça, on va être pas tout excusé, mais vraiment être beaucoup plus indigent et plus compréhensif. Ça va aider aussi à ce niveau-là.
Et c'est pour ça, je pense que c'est bien de pouvoir citer quelques exemples d'occasions d'offense. C'est pas qu'on veut créer, mais c'est des choses qui existent pour comprendre pourquoi est-ce que moi j'ai été offensée, mais aussi sachez que probablement vous avez aussi offensé quelqu'un dans l'église parce que, comme Nadine l'a dit, on est en chemin et c'est vrai, on arrive à l'église, oui, on a été sauvés, mais bien souvent on a aussi tout un bagage au niveau de notre caractère, au niveau des blessures. Et ça peut prendre du temps quelquefois de guérir. Et c'est de, comme on l'a dit, les personnes avec qui on va avoir affaire, ce sont des personnes qui, oui, ont expérimenté l'amour de Dieu. Et en effet, il y a des choses qui ne devraient pas se passer à l'église. Et c'est triste, c'est dommage que ça puisse se passer. Il y a des discussions quelquefois qui ont lieu. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'à l'église, je peux entendre autant de médisances et autant de critiques? Mais parce que les croyants ont aussi besoin de se sanctifier, de grandir et de devenir plus mature. Et c'est aussi une des façons, comme tu le disais Nadine, de pouvoir mieux le comprendre de l'autre côté, c'est de se dire peut-être que moi aussi j'ai été de l'autre côté, peut-être que c'est moi qui n'ai pas appelé quelqu'un un jour, peut-être que c'est moi qui ai critiqué, qui ai fait de la médisance, peut-être que c'est moi qui, à cause de mes blessures et une réaction agressive envers quelqu'un dans l'église. Donc en fait, l'église, oui, est un bel endroit, est un endroit où Dieu déverse sa bénédiction, est un endroit où Dieu déverse son amour, mais c'est un endroit où, forcément, on va apprendre à s'aimer les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de frottement et qu'il n'y aura pas de moment où les personnalités vont pouvoir s'entrechoquer. Mais c'est un endroit aussi, surtout, de pardon. Un endroit où on va apprendre à pardonner parce que ça vaut la peine de pouvoir pardonner.
Ouais, on peut voir que le premier couple dans la Bible, Adam et Ève, déjà dans leur histoire et la première communication qu'il y a, quand Ève va proposer le fruit, Adam va l'accepter, ils pêchent tous les deux, ils se cachent. Quand Dieu s'adresse à Adam, il va dire « c'est la femme que tu m'as donnée ». Et j'imagine que pour Ève, entendre ça, elle aurait préféré être couverte par son mari, que le mari puisse dire « non, mais je suis vraiment reconnaître, Seigneur, je suis désolé, j'ai péché ». Mais tout de suite, il met la faute sur sa femme. Et c'est très désagréable, j'imagine, pour elle, que le mari puisse, au lieu de la couvrir, l'exposer et dire que finalement, il n'a aucun tort. C'est vraiment de la faute à 100% de son épouse. Donc, le premier couple dans la Bible, on peut voir que direct, il y a des situations qui ne sont pas très agréables. Mais également, les premiers frères, dès qu'il y a eu des frères sur la terre, il y a eu des problèmes. Cain et Abel ont eu un énorme problème relationnel et ça s'est fini par un meurtre. Donc le monde, à cause du péché, engendre des situations de conflictuelles. Le fait d'avoir des conflits, c'est une chose, mais c'est surtout le fait de ne pas savoir ou de ne pas les gérer d'une bonne façon, d'une façon divine, et de laisser la place finalement à la chair et à Satan. Et c'est ce que va faire Cain. Dieu lui montre qu'il a une mauvaise attitude. Il dit, mais redresse-toi, reprends-toi. Le péché est là, c'est vrai. Tu sens le pouvoir du péché qui est là. Il est tapis à ta porte, mais reprends-toi. Et il ne va pas réussir. Finalement, ça va se terminer en meurtre. Il tue son frère. Et il ose dire, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? Eh bien oui, dans l'Église, on est le gardien de nos frères et de nos sœurs. Et comme tu le disais, Nadine, parfois on a des attentes vis-à-vis des autres. On attend qu'ils nous... qu'il nous donne des choses, ou qu'il nous dise des choses, ou qu'il nous fasse du bien, et on peut ne pas rencontrer nos attentes. Mais on a un chemin, et c'est un chemin, effectivement, un chemin d'amour que le Seigneur Jésus nous propose. Il nous dit, on pourrait avoir, à travers l'apôtre Paul, la bouche de l'apôtre Paul, il dit, je pourrais avoir toute la connaissance, les prophéties, etc., tous les dons les meilleurs, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et des fois, on retrouve dans l'Église des personnes, femmes et hommes, qui ont par exemple un très bon don de prophétie. Voilà, ils se lèvent dans l'Église, ils prophétisent, etc. Mais par contre, ils ont tellement d'amertume dans leur cœur vis-à-vis des autres. Et le message que le Seigneur m'a donné par rapport à ces livres, le message de ces livres, c'est vraiment, c'est pas un message nouveau, mais c'est de marcher dans l'amour. C'est ce que le Seigneur Jésus veut. Et on peut vivre cette révolution à partir du moment où on accepte vraiment de mourir à nous-mêmes et de faire ce pas de foi. Seigneur, je veux vivre comme toi, je veux être comme toi. Seigneur, je suis prêt à abandonner mes façons de penser et à abandonner la colère, l'amertume. Je veux vraiment marcher dans cet amour. Et frères et sœurs, il y a un amour surnaturel. Il y a un amour extraordinaire qui fait que, entre guillemets, vous serez comme un cadavre, dans le sens où on peut vous frapper, vous ne sentez rien. Et si vous sentez quelque chose, vous avez un tel amour pour Dieu et un tel amour pour les gens que vous comprenez, en fait, qu'ils sont comme vous, qu'ils passent par les mêmes difficultés. Et vous allez excuser même parfois des choses qui ne sont pourtant pas excusables juste parce que vous marchez dans l'amour. Et je suis surpris de lire à chaque fois Jésus qui, à la croix, il dit « Mais pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais j'aimerais dire, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient en clouant Jésus sur la croix. Ils l'ont vu faire des miracles sous leurs yeux. Ils ont vu Lazare ressuscité sous leurs yeux. Ils ont vu la multiplication des pains sous leurs yeux. Ils ont vu, ils savaient ce qu'ils faisaient. Alors, pas à 100% certainement parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître le Messie. Mais pourtant, Jésus se met dans une position de pardon extrême. Il ne méritait pas, nous ne méritions pas d'être pardonnés. Et pourtant, il nous pardonne et il ose dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Mais en réalité, on sait ce qu'on fait. Quand on pêche, notre conscience nous reprend. On sait que ce n'est pas bien quand on ment, quand on vole, quand on triche. Et pourtant, Jésus dit, mais pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc l'amour, en fait, va être cet ingrédient qui va dépasser, surpasser les fautes. Et le Seigneur nous encourage à pouvoir aimer comme aussi on aimerait qu'on nous aime, et à pardonner, il dit ici, voilà, jusqu'à 7 fois ou 7 fois, 70 fois ou 77 fois. C'est incroyable. C'est un amour et c'est un pardon qui est suprême. Mais il dit également que si on ne fait pas grâce, si on ne pardonne pas ceux qui nous ont offensés, on ne sera pas pardonné non plus. Et là, c'est vraiment un point qui est crucial et qui est extrêmement important, je crois, pour l'Église. Parce que bon, voilà, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils doivent le rencontrer. Mais nous qui le connaissons, des fois, on va se cacher derrière notre salut. Et la grâce et l'amour de Dieu, oui, il y a un amour de Dieu pour nous. Il pardonne nos fautes, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est que si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, si on est dur de cœur avec les gens, si on refuse de pardonner, c'est comme si Dieu prend ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur et qu'il le met dans son cœur pour nous juger. Et il nous jugera selon l'amour qu'on a eu envers les autres. Si on a refusé de pardonner, qu'il y a eu dans notre cœur ce refus de pardonner, c'est comme si Dieu prend le refus de pardonner, il le met dans son cœur au moment du jugement et au moment où on se retrouvera devant nous, et ça va faire mal. Parce qu'on sera jugé selon la miséricorde ou non qu'on a eu envers les autres personnes. Donc, faisons attention, vraiment.
Amen, amen. Et j'aime trop ce que tu es en train de dire. Et il y a ce verset dans Pierre qui dit de s'édifier mutuellement pour former une maison spirituelle. Et c'est en fait, c'est ça, j'aime ce que tu es en train de dire parce que ça ramène les gens à leur responsabilité première, à se dire que la Bible dit comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Moi, je suis dans l'Église, OK. Quel est moi, mon regard par rapport aux autres? Est-ce que je viens en mode consommateur et en mode juge des autres et de leur attitude, de leurs gestes, où je comprends que moi aussi, je suis un ingrédient dans la pâte, en fait, que nous devons former. Et donc, du coup, moi aussi, je me revais de cet amour, je me revais de cette compassion, de cette empathie. Je me revais même juste de cette communication. Des fois, il y a des offenses parce qu'on n'a tout simplement pas dit. Je ne me suis pas arrêtée pour dire à mon frère, « Ah tiens, ce matin, c'était moi qui devais faire, je ne sais pas moi, le lead à la louange, et puis nanana. » Et puis on en parle et on règle. Mais parce que je n'ai pas fait ça, ben c'est un élément qui reste dans mon cœur et il y en a d'autres qui se rajoutent comme ça et il y a des offenses qui se créent. Et donc, c'est important de comprendre que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est un rassemblement de vous et moi. Et moi, j'ai ma part à jouer là-dedans. Et je crois que lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, on se responsabilise à ce niveau-là, ça va vraiment aider au niveau des offenses parce que justement, il y aura des gardiens à gauche et à droite, en fait. Parce que quand il y aura un esprit de zizanie qui va se lever, mais il y aura au moins une ou deux personnes qui vont dire « Ah, mais non, c'est quoi, on ne devrait pas aller dans cette direction-ci, on devrait aller plutôt dans cette direction-ci. Donc je crois que c'est vraiment important de... C'est vrai que des choses peuvent arriver, on peut être spectateur, mais vraiment au niveau de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, on est des acteurs. Et vraiment, si chacun de nous se lève, ça fera vraiment une différence.
Et prend sa responsabilité aussi. Et on a reçu une question dans Allô les filles. Comment trouver une église dans laquelle les gens ne seront pas hypocrites, se demande Suzanne de France. Et est-ce que, Jérémy Sourdril, tu pourrais répondre à Suzanne de France?
Oui, Suzanne, ça me fait plaisir. Quel plaisir de pouvoir m'adresser à autant de femmes, Annabelle et Nadine.
Dans cette rubrique Allô les filles.
Dans cette rubrique Allô les filles avec ma tasse rose, je suis vraiment bénie. Donc, comment trouver une église finalement où il n'y a pas d'hypocrisie?
C'est ça.
La seule possibilité de trouver ce genre d'église est de mourir. Puisque au ciel, avec la Nouvelle Jérusalem, merci Seigneur, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus d'hypocrisie. Mais sur la terre, il y aura toujours d'une façon ou d'une autre des églises locales avec des personnes qui font preuve à un moment ou à un autre d'hypocrisie. Le ministère de Jésus était sans faute, il n'a commis aucune faute et aucun péché, il était un leader excellent. Et pourtant, il a vécu dans son leadership proche, donc des personnes qui étaient très proches de lui, de l'hypocrisie, comme Judas par exemple, qui avait déjà prévu de livrer le Seigneur Jésus-Christ, et qui non seulement se retrouve en présence de Jésus et des autres disciples, parce qu'en trahissant Jésus, il trahissait également tous ses amis, ses frères, qui étaient là, mais aussi les sœurs qui les accompagnaient. Et Judas, finalement, fait comme s'il faisait encore partie de la famille. Et il va se laisser nourrir par Jésus, prendre ce repas, mais se laisser laver les pieds avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus était en train de lui laver les pieds, alors qu'il avait déjà prévu, il avait été payé pour le trahir, le livrer, c'était dans son cœur. Et tranquillement, comme de rien, il partage le repas de la Pâque avec le Seigneur Jésus-Christ, il a encore la nourriture dans sa bouche quand il part retourner voir les pharisiens. Donc l'hypocrisie, même si on a un ministère qui est extraordinaire, même si on est un frère, une sœur, un chrétien, une chrétienne, sans faute dans telle ou telle situation, on va se retrouver avec des personnes qui vont faire preuve d'hypocrisie dans l'Église. Donc c'est décevant, on s'attend à mieux. Maintenant, c'est sûr que si nous sommes dans une Église locale, plus traditionnel, où beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau, on va être beaucoup plus confronté à de l'hypocrisie, parce que là où il n'y a pas de nouvelle naissance, la chair, on est dans le monde, donc beaucoup d'hypocrisie. Maintenant, plus on va dans une église où vraiment il se passe quelque chose dans l'esprit, il y a vraiment un vrai travail du Saint-Esprit, vous voyez des gens recevoir le Seigneur Jésus-Christ, bon, c'est des gens qui marchent avec Dieu, l'hypocrisie est quand même moins courante. Il y a aussi le fait de... Vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais c'est aussi de l'abondance de ce qu'on regarde et de nos blessures que des situations arrivent. Mm-hmm. Si je suis blessé, si je suis très alerte par rapport au péché chez les autres, au lieu d'avoir l'attitude de Jésus sur la croix, qui lui va pardonner, excuser, je vais voir l'hypocrisie partout. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il y a eu de l'hypocrisie autour de moi. Il n'y a pas des exemples qui me viennent comme ça, parce qu'en fait, je n'ai pas une attitude dans ma vie et dans l'Église à soupçonner ou à chercher le mal chez les autres, mais toujours à pardonner, à couvrir. Il ne faut pas trop aller non plus à l'extrême, parce qu'on peut se prendre des coups, ça peut faire mal. Mais si on a dans notre cœur de l'amertume, on est meurtri à l'intérieur, ce cœur ouvert à voir les fautes chez les autres, on peut voir de l'hypocrisie partout en fait. Mm-hmm. Et tout est pur pour ceux qui sont purs, mais tout est souillé pour ceux qui ne le sont pas. Donc pour ceux qui sont souillés. Ça veut dire que si je suis pur de cœur et d'amour, vous voyez, Jésus se trouve, il est en train de rendre un service, de laver les pieds de Judas. Donc il aurait pu dire, mais Judas, ce que tu fais, c'est terrible, c'est horrible, tu es méchant, tu es ceci, tu es un traître, tu es un hypocrite. Et il lui lève les pieds. Et Jésus est amour, Dieu est amour. C'est-à-dire que quand l'amour est manifesté et que Jésus se retrouve devant quelqu'un qui est un traître, un hypocrite, un menteur, etc., vendu à l'argent, il ne lui dit rien. Ça ne veut pas dire qu'on va, parce que tu as parlé de communication, il faut pouvoir communiquer. Mais son amour, en fait, est plus grand et sa compassion est plus grande que le désir de se faire justice, etc. Donc c'est vraiment une attitude, comment on regarde les gens, est-ce qu'on va marcher dans l'amour justement, qui va pardonner, qui va... Vous savez, des fois il y a des situations qui pourraient être réglées juste en prenant, en prenant la personne dans les bras. L'amour, ça fait fondre tellement de situations difficiles. Et mais si on ne veut pas faire cet effort de se prendre dans les bras, de pouvoir se dire « je t'aime », de pouvoir parler, communiquer, de dire « c'est vrai, on passe par cette situation, mais j'aimerais te dire que même si on est en désaccord, je t'aime, j'aimerais continuer à être ton ami, j'aimerais continuer à être ton frère, on va essayer de trouver comment on peut s'arranger, comment on peut sortir de cette situation. Mais s'il te plaît, ne me ferme pas ton cœur. Mmh. » Et marcher dans l'amour, c'est toujours, toujours, toujours la solution. Maintenant, cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu et on peut marcher dans cette grâce surnaturelle.
Est-ce que tu veux prier pour terminer cette émission pour les personnes qui ont vécu des déceptions dans l'Église et qui ont, comme tu l'as dit, fermé leur cœur suite à des offenses?
Je vais prier pour vous et comme je l'ai dit, je comprends et j'entends que vous êtes blessés, meurtris et que certainement des personnes ont été injustes envers vous. Mais maintenant, on peut avoir et vous devriez avoir la bonne disposition et je veux prier pour vous. Père, je te remercie pour ce moment de partage aujourd'hui. Tu vois cette personne qui est là derrière son écran et en ce moment même, le Saint-Esprit est en train de pointer du doigt une situation dans son cœur. Père, elle a envie, il a envie de pardonner. Elle a envie et elle sait que la bonne chose à faire, c'est de pardonner. Mais elle ne trouve pas la force de le faire. Et je prie, Père Céleste, que déjà la guérison germe dans son cœur par le Saint-Esprit. Je te demande par ton amour suprême, encore une fois, de toucher sa vie, de la remplir de ta présence, de la douceur de Jésus-Christ, et qu'en se sentant tellement aimée, alors qu'elle fait le choix de pardonner, que tout à coup, le voile tombe, qu'un amour profond dépasse les situations et les fautes qui ont pu être commises envers elle et que cet amour déborde et lui permette d'aimer ses ennemis. Père, je prie pour la guérison des cœurs brisés, blessés, là où il y a eu des meurtrissures dans le cœur. Je prie, merveilleux Jésus-Christ, que ton esprit puisse venir et guérir ces cœurs brisés. Au nom de Jésus, pour ta gloire, Seigneur, toi qui nous as demandé de pardonner et d'aimer même nos ennemis, que tout soit pour ta gloire. Amen.
Amen. Tu voulais ajouter, Nadine?
J'aimerais juste encourager aussi les leaders, parce que Jérémy parlait de Jésus, et je crois qu'en tant que leader, on a un rôle à jouer aussi par rapport à justement ce qu'on voit par rapport à l'hypocrisie. Mm-hmm. Encourager vraiment à ce que les gens puissent parler des fois d'hypocrisie, parce que les gens ont l'impression qu'ils doivent se présenter d'une certaine manière alors qu'ils ne sont pas encore rendus, entre guillemets, à ce stade-là. Et donc vraiment, si en tant que leader, on peut aimer les gens tels qu'ils sont pour ne pas que les gens se sentent qu'ils doivent faire semblant et commencer vraiment à être un chrétien très, très engagé dans l'Église, mais la semaine, ils sont autre chose. Et donc, je crois que Jésus est notre modèle par excellence. Et en tant que leader, on doit aussi prendre l'exemple de comment il a aimé ses brebis, malgré qu'elles étaient différentes, il a aimé ses disciples qui étaient à des différents niveaux, etc. Il les a portés. Et je crois que ça va vraiment aider aussi au niveau des offenses dans l'Église.
En effet. Alors, on va vous dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous allons voir comment, de façon plus pratique, nous pouvons aussi gérer l'offense. Et je crois que pour beaucoup, le Saint-Esprit vous a conduit à délaisser de la haine, délaisser de la colère, de la vengeance contre l'Église en général, contre certains leaders, contre certains frères et sœurs. Et c'est notre prière que vous puissiez ne pas résister à ce que le Saint-Esprit vous pousse à faire et que vous puissiez vivre cette délivrance à travers le pardon. Alors, à demain dans Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.